Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches, à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Bibring. Bonjour Jean-Pierre Bibring.
Bonjour madame.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Sur France Inter.
Alors Jean-Pierre Bibring, vous êtes planétologue.
Oui, je fais de l'astrophysique, surtout dans le domaine du système solaire, on va le dire comme ça.
Vous êtes spécialiste de la planète Mars ?
Non, je travaille aussi sur la planète Mars, mais c'est l'ensemble du système solaire qui m'intéresse beaucoup.
On dit que vous êtes le père du robot Philae.
Non, j'aime pas cette notion-là, parce que d'abord je suis le père d'autres enfants, et que... On a le problème en France souvent de vouloir avoir des gens qui font tout. C'est pas du tout le cas. Je dirais que si j'avais une fierté, ça serait d'être dans un collectif, voire d'animer une partie de ce collectif. Et c'est vraiment une activité collective qui a permis un jour de se poser sur une comète. Donc Philae, c'est le résultat de tout cela.
Jean-Pierre Bibring, vous avez choisi comme journée particulière le 12 novembre 2014. Ce jour-là, le robot, justement le robot Philae, atterrissait sur la comète Churyumov-Gerasimenko. À 500 millions de kilomètres de la Terre, après 10 ans de voyage.
Donc il y a une petite heure, le point d'orgue d'une aventure qui aura duré 10 ans, d'une incroyable course-poursuite à 65 000 km/h entre une sonde, Rosetta et une comète surnommée Churi. Pour cette rencontre à 500 millions de kilomètres de la Terre, la sonde a lâché son robot, c'était ce matin, et au terme d'une chute libre de 7 heures, Philae, c'est son nom, s'est posé sur la comète qui fait 4 km de long.
Philae is talking to us, more data to come.
Voilà. Philae est en train de nous parler.
The flywheel is going down, which it should do, of course. We are there, it's done its job. We are on the comet.
On a fait le travail, on est sur la comète. Voilà ce qui a été dit au tout départ. À 17h05, on a reçu le signal du contact avec le sol. Brutal ou amorti par la poussière, on le saura sous peu. Le chef scientifique de cette mission l'a qualifié de baiser à la comète. Mais jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si le robot réussirait à se poser sur cet objet céleste.
Jean-Pierre Bibring, ce 12 novembre 2014, vous étiez exactement là, dans cette salle de contrôle-là qu'on vient d'entendre ?
Oui, comme pas mal des gens qui ont fabriqué cette affaire-là, il fallait y être parce que même si la descente a été une descente longue, une véritable chute libre de, vous imaginez, 6 heures, il y a des choses à faire avant, il y a des choses à faire pendant, et puis dès qu'on arrive, il faut mettre en place tout ce qu'on avait envisagé, c'est-à-dire faire des mesures. Donc oui, tout se passait là-bas parce que c'est de cet endroit, Darmstadt, en Allemagne, que l'on envoie les ordres qui, via des antennes qui sont en Australie, parviennent à Rosetta et font en sorte que les objets puissent commencer à travailler.
Ça faisait combien d'années que vous travailliez, Jean-Pierre Bibring, sur ce projet ?
Alors c'est ça qui fait que cette journée était vraiment particulière, parce que ce projet, ce rêve, était né quasiment 30 ans plus tôt. C'est 30 ans avant, alors que l'exploration spatiale était vraiment dans son enfance, qu'un certain nombre de gens se sont dit ce qu'il faudrait maintenant, c'est aller voir une comète dont on n'avait pas d'idée réellement de ce que c'était, et de se poser dessus pour l'analyser. C'était dans les années 80 qu'on a envisagé cela. C'est quelque chose qui était un véritable défi, une ambition scientifique folle, parce que on a été convaincus que ça nous apprendrait beaucoup de choses, et ça nous a appris beaucoup de choses, qui changent un peu notre manière de voir le monde. Mais c'était un défi scientifique et technologique absolument incroyable, parce qu'il s'agissait de concevoir un engin qui se poserait sur un objet dont on n'avait pas la moindre idée de quoi il était fait, à quoi il ressemblerait, est-ce qu'il serait dur, mou, est-ce qu'on s'enfoncerait, est-ce qu'on glisserait, est-ce qu'on rebondirait. Et donc il fallait... imaginez un concept d'objet qui arriverait d'abord à repérer cette comète, un tout petit objet de quelques kilomètres qui flotte dans l'espace, et ensuite, effectivement, essayer de s'y poser pour y travailler.
Alors justement, quand vous avez vu le pied du robot Philae sur cette comète vieille de 4,6 milliards d'années, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Jean-Pierre Bibrine?
Il s'est passé, il faut bien voir que cette image à laquelle vous faites allusion, c'est une image qui est arrivée après des heures de désillusion. Et c'est ça qui fait que ce moment-là a été absolument incroyable. On n'avait aucun moyen de commander l'objet pendant sa descente. On ne pouvait qu'attendre. Et tout d'un coup, effectivement, on avait prévu qu'au moment où il toucherait le sol, il y aurait un signal. Et on a reçu ce signal. Donc, ça a été absolument extraordinaire. On était tous là.
Sauter, les images qu'on voit dans les films.
C'était absolument incroyable. Il y avait Churyumov avec qui on a échangé du champagne. C'était absolument merveilleux.
Churyumov qui est un des deux
découvreurs de cet objet. Ouais. Et immédiatement, ce qu'il fallait faire, c'était... la première chose qu'on avait commandée, c'était de faire un panorama. Donc, je suis tout de suite monté pour récupérer les images qui devaient être arrivées là. Et là, c'était une consternation folle parce que ces images, alors que la caméra, on venait de démontrer qu'elle marchait très bien, ce sont des petites caméras qu'on avait fabriquées, capables de travailler à moins 150 degrés. C'était ahurissant, quoi, que la technologie de l'époque ait permis de faire cela. On voit ces images et ces images sont floues, bougées. On s'aperçoit qu'une image prise quelques minutes seulement après qu'on ait eu le signal que l'objet s'était posé, l'objet avait rebondi, on était parti de la comète. Et on n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle on avait rebondi. Et comme c'est un tout petit objet, il n'a pas de gravité, il ne pouvait pas nous attirer. La comète elle-même. Si vous partez même une petite pichenette, ça suffit à quitter l'objet et ne plus jamais y retourner. Et donc, on avait très peur d'avoir quitté pour toujours, par le rebond, cet objet-là que Philae avait touché et était reparti dans l'espace.
Ça veut dire que vous avez trinqué et une minute après, vous étiez désespéré.
Consterné plus que désespéré, parce qu'on est tellement dans ce moment-là, dans l'activité, Et donc, on a immédiatement imaginé tous les scénarios possibles, dont l'un qui serait le plus positif, c'est-à-dire que finalement, Philae serait reparti avec une vitesse qui lui permettrait de rebondir, mais de retomber sur le noyau cométaire, et de retomber dans un endroit où il serait en visibilité de Rosetta, qui est l'engin mère, par lequel on communique avec Philae, parce qu'on ne pouvait pas communiquer directement. Et donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est de concevoir ce qu'il faudrait envoyer comme ordre à Rosetta pour que si Rosetta était à un moment donné en visibilité d'un Philae qui a eu le bon goût de se poser, en voyant Rosetta, il recevrait des ordres, il ferait quelque chose et on voulait savoir ce qu'il devait faire.
D'accord.
Et c'était ça l'idée. On lui a envoyé, on a conçu et envoyé tout de suite des ordres pour que Rosetta demande à Philae de refaire un panorama de l'endroit où il se poserait, s'il y a un petit peu de soleil pour faire une image, etc.
Mais combien de temps vous avez perdu la trace du robot Philae? Pendant combien de temps vous n'avez pas su s'il avait rebondi ou s'il était parti dans l'espace?
Du soir où on a ce signal jusqu'au lendemain matin, quand on a eu les premières images, toute la nuit. Et c'est pour ça qu'au petit matin, quand on a eu cette image absolument, pour nous, féerique, où vous voyez l'objet le plus vieux du système solaire photographié à quelques centimètres, avec au premier plan le pied de notre engin, donc voilà, on avait réussi à se poser, on était immobile, et on pouvait enfin commencer à analyser l'objet le plus vieux du système solaire qu'on n'avait jamais analysé.
Sauf qu'il y a eu un petit problème encore, c'est que Philae s'est posé de manière bancale et un endroit sombre où il n'y avait pas assez de soleil.
Oui, c'est-à-dire que on peut dire qu'on a eu d'une part beaucoup de chance parce qu'on s'est quand même malgré tout arrêté quelque part et qu'on a pu travailler. Mais pas dans les meilleures conditions. D'une part parce qu'on était dans une alcôve où il n'y avait pas de soleil qui arrivait.
Quand vous dites « on », c'est Philae.
Oui, c'est la famille. Ouais. Oui, Philae s'est posé dans une alcôve où il n'y a quasiment pas de soleil qui arrivait. Et donc, on avait des panneaux solaires pour recharger des batteries. Ça n'a jamais pu se faire. On n'y peut rien, mais voilà. Donc, on a pu travailler que sur des piles que l'on avait, qui avaient une durée de vie que l'on connaissait pas, puisqu'elles étaient prévues pour marcher 60 heures. Mais c'était plus de 10 ans avant qu'elles avaient été mises à bord. On n'avait aucune idée, dans le vide interplanétaire, si elles avaient gardé leur énergie, tout simplement. Ben, il se trouve qu'elles en ont gardé, qu'on avait trouvé des bonnes piles, puisqu'on a travaillé 65 heures même.
Jean-Pierre Bibrine, 48 heures sans dormir, ça a été pour vous?
Oh, quasiment plus, parce qu'en fait, les 65 heures en question, on n'avait pas une heure, pas une minute, pas une seconde à perdre, tellement c'était important de correspondre avec cet objet-là pour lui faire faire le maximum que l'on pouvait. On avait peur à tout moment que ça s'arrête tout de suite, puisqu'on ne connaissait pas le contenu des piles. Donc oui, on a vraiment vécu 3 jours, 3 nuits absolument extraordinaires. Donc c'est plus qu'une journée particulière, c'est vraiment 3 jours merveilleux.
Alors, quand vous êtes parti en chemin vers cette salle de contrôle de Darmstadt, en Allemagne, vous écoutiez cette étude de Chopin?
Vous la connaissez par cœur, Jean-Pierre Bibring, cette étude numéro 11, opus 25 de Chopin, interprétée par Pollini.
Oui, elle fait partie donc de ce recueil des 2x12 études. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très ému en la entendant ici. Chaque fois que j'ai affaire, j'avais ou j'ai encore affaire, soit des conférences ou qu'il y a des moments un peu critiques comme ça, je sors en général, je mets, c'était du temps où on pouvait encore écouter des CD dans les voitures. Dans les voitures, je mettais mon CD de Pollini toujours là-dessus. C'est un moyen de, à la fois de concentration, mais aussi de détente, qui m'a toujours ressourcé. Et c'est vrai que pendant ces quelques jours, avec tellement de crispations, de questionnements, ça m'arrivait assez souvent, donc pour arriver là-bas, et puis quand il y avait vraiment des choses, je sortais quelques minutes, je me faisais une étude de Chopin et je revenais.
Ah oui, même pendant ces 3 jours Vous l'écoutiez pour retrouver de l'énergie?
Oui, parce que c'était, mais vous savez, chacun a quelque chose comme ça. Moi, c'était Chopin d'une part et les études en particulier, oui.
Alors, le 12 novembre 2014, c'est la journée particulière de l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring. Ce jour-là, donc, le robot Philae, dont vous étiez le coordinateur scientifique, on peut le dire comme ça?
On va dire l'un des, je préfère.
L'un des coordinateurs scientifiques se posait sur la comète Chury. C'était la première fois que l'homme fabriquait et concevait un engin capable de se poser sur une comète. C'était un exploit. Et depuis 60 ans, Jean-Pierre Bibring, l'exploration spatiale a bouleversé notre vision de la Terre.
Oui, c'est ça, moi, que je trouve merveilleux dans le métier que j'ai la chance de faire. C'est que quand l'exploration spatiale est née, il y a un objet planétaire qu'on connaissait à peu près bien, la Terre. Et tout ce qu'on savait des autres, c'était quand même très peu de choses, parce qu'au télescope, on n'a pas en général la résolution qui va bien. Donc on se faisait des idées sur les autres mondes planétaires, mais quand on regarde comment on concevait ce que sont les objets planétaires il y a 60 ans, ça paraît de la préhistoire, ça ne l'est pas vraiment, on a connu tout cela. On pensait qu'il y avait de la vie partout dans l'univers, on pensait que, etc. Pourquoi ? Parce qu'on extrapolait à d'autres objets notre connaissance de la Terre. Et tout d'un coup, avec l'exploration spatiale, on s'est doté des moyens d'aller voir sur place, de mesurer des propriétés, de comparer, etc. Et sans être long, je veux dire, s'il y a un mot qui caractérise tout ça, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a une incroyable diversité dans le système solaire. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas que la Terre est plus que si. La Terre est différente de Mars, qui elle-même est différente de Vénus, qui elle-même est différente, etc. Et qu'on a pris conscience progressivement de ce que l'évolution dans l'univers produit une incroyable diversité. Et que cette diversité fait que on est sur l'un des objets, et puis il y a les autres. Et les autres ont eu une évolution qui, partant de conditions qu'on croyait semblables, qui ne sont pas exactement semblables, ont vécu des étapes qui ont conduit à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des objets très différents.
Alors je vous propose, Jean-Pierre Bibring, qu'on revienne un petit peu sur quelques moments de cette exploration spatiale, parce que c'est des sons magnifiques, et puis ça commence en 1957, avec Spoutnik.
On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux États-Unis. Promis pour 57, le lancement avait été reporté en 58, les essais de la fusée de lancement ayant tourné court. Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limours est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistré, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination. Et les hommes scrutaient naïvement le ciel pour essayer de voir l'étonnante chose qui les inquiète et qui les émerveille.
Jean-Pierre Bibring, c'était donc en 1957, en pleine guerre froide, hein, c'est ce que disait cette archive. Est-ce que c'est vraiment le début de l'exploration spatiale ou non, c'est pas tout à fait là pour vous?
Non, c'est le début du spatial tout court, exploration ou pas. C'est-à-dire que on pouvait comprendre qu'un jour on saurait mettre des objets en orbite autour de la Terre. Simplement, il fallait le faire. Et c'est effectivement les Soviétiques qui ont réussi ça la première fois en octobre 57. Mais ce qu'il faut par exemple réaliser, c'est que Ce qui est incroyable dans le Spoutnik, ce qui a été dit ici, c'est que ce Spoutnik, il faisait une seule chose, quasiment, outre tourner autour de la Terre, c'est d'émettre un signal, le fameux bip-bip. Pourquoi c'était important? C'est qu'on ne connaissait à ce point pas les propriétés de notre atmosphère. On ne savait même pas si on pouvait correspondre entre le sol et un objet qui serait à quelques, simplement centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est pas très haut, hein. Mais il y a toute l'atmosphère à traverser. Et donc, le bip-bip, il était important pour cela. C'est que ça nous disait que oui, on pourrait, voilà le niveau de connaissance que l'on avait. Ça montre un peu le pas qui a été fait. Et c'est vrai que les Soviétiques, forts de cela, ont été très rapides à parcourir des étapes et un chemin. Vous savez qu'un mois après le premier Spoutnik, c'est-à-dire en novembre 57, ils ont déjà envoyé des êtres dans l'espace, puisque c'était la petite chaîne Laïka.
Laïka, oui.
Parce que la question était de savoir si on arriverait à domestiquer l'espace proche pour que des hommes un jour puissent y vivre, y travailler. Et ce qui a été le fil permanent des Soviétiques de construire des stations orbitales, d'abord les Salyut, puis Mir, et participer bien sûr à la construction de la station internationale aujourd'hui. Et donc cette idée de faire des robots pour aller voir l'espace et faire des stations autour de la Terre pour que l'homme puisse commencer à y travailler, ça s'est effectivement commencé avec le Spoutnik et tout ce qui s'est suivi. Ce qui a suivi. Mais pour l'exploration robotique de l'espace, le pas a été fait en janvier 59. C'est pas très longtemps après, à peine plus d'un an après. Et c'est la première fois que les Soviétiques se sont dit, voilà, pour envoyer un engin autour de la Terre, il faut lui communiquer une certaine vitesse, qui est à peu près 8 km par seconde. Si vous êtes à 8 km par seconde, ben, comme aurait dit Newton, vous tombez en permanence, c'est-à-dire vous faites le tour, comme la Lune fait le tour de la Terre. Mais si au lieu de 8, vous passez à 11 km par seconde, tout d'un coup, vous avez une énergie suffisante pour quitter l'attraction terrestre.
D'accord.
Et donc, ils se sont dit, on va le faire. Et qu'est-ce qu'on va viser? Bah, ce qui est le plus proche, le plus simple, si on peut dire, qui est la Lune. Et donc, ils ont décidé, en janvier 59, d'envoyer un engin sur la Lune, Luna 1. Et c'est la première fois que l'homme concevait un système pour quitter l'attraction terrestre. Mais il ne faisait pas quitter l'attraction terrestre, il quittait l'environnement de la Terre. Il était dans le milieu interplanétaire. Et c'était les premières mesures qui ont été faites de ce qu'il y a entre la Terre et la Lune. Et c'était merveilleux, parce que pour la première fois, on a vu qu'on peut analyser un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, y compris le milieu qui englobe la Terre avec son champ magnétique, etc. Et cette année 59, qui pour moi est vraiment le démarrage de l'exploration, elle a vu trois sondes soviétiques aller vers la Lune. La troisième, pour se rendre compte un peu, c'était déjà la troisième sonde pour aller sur la Lune. Elle a été envoyée en octobre 59 pour fêter le deuxième anniversaire du Spoutnik. Vous voyez, tout ça était vraiment très vite. Et là, ils ont fait quelque chose d'ahurissant, qui était de se dire, non seulement on va viser la Lune, mais on va viser à côté de la Lune. Et on va passer à côté de la Lune à une distance telle que, compte tenu de la vitesse qu'on va lui communiquer, la sonde va devenir un satellite de la Lune. C'est-à-dire qu'elle va tourner autour de la Lune. Et là, les gens se sont dit, les Soviétiques en l'occurrence, et les scientifiques en particulier, mais c'est extraordinaire parce que pour la première fois, on va voir, si on peut dire, la face cachée de la Lune, que de la Terre, on ne peut pas voir. Mais bien sûr, si on veut savoir ce qu'il y a, il faut faire des caméras, il faut faire quelque chose. Or, les caméras, à l'époque, c'était quoi? Ben, c'est un appareil photo qui fait des images et qui les ramène sur Terre pour les développer. Mais là, l'engin, il revenait pas sur Terre. Donc, il a fallu concevoir, en quelques mois, de quoi faire une image de l'autre côté de la Lune, et que quand l'engin passait de ce côté-ci, transformer l'image dans un train d'ondes, comme une onde de télévision, pour que cette onde puisse être reçue sur Terre, retransformée dans l'autre sens, et qu'on voit la première image de la Lune. Donc vous voyez, ça a été assez rapide. L'escalade qui a permis, à partir de la capacité technologique d'aller ailleurs que sur Terre, de commencer à faire de l'expérimentation, des images et plein d'autres mesures. Mais la première image dans l'espace, c'est vraiment l'image de la face cachée de la Lune, qui d'ailleurs était extraordinaire parce qu'on s'est aperçu qu'elle correspond. Elle est pas du tout comme la face qui nous fait face, mais c'est une autre affaire.
Une autre affaire. Jean-Pierre Vibrin, quelle vision on avait de la Terre à cette époque-là, au début de l'exploration? Qu'est-ce qu'on pensait de la Terre? On pensait que la Terre était unique ou pas du tout?
Alors, d'abord, la Terre, à l'époque, c'était une masse infinie sous nos pieds. Si vous ouvrez des livres de qu'on appelait de cosmogonie de l'époque, on démontrait que la Terre était ronde. Parce que la Terre, il n'y avait pas de moyen de savoir que la Terre était ronde. Vous voyez quand vous êtes au bord de la mer qu'il y a un horizon, donc vous dites bien que s'il y a un horizon, ça doit peut-être tourner de l'autre côté, mais il y avait... Bon. Mais ça, c'était la vision, je dirais, de la Terre comme objet. Mais après, la question est de savoir s'il y a d'autres Terres ou pas, avec ce que suppose la Terre, c'est-à-dire une atmosphère, des êtres vivants. À l'époque, il n'y avait aucune observation qui permette de répondre à la question de savoir si la Terre était unique ou pas.
Et on pensait quoi? On pensait qu'elle n'était pas unique?
Eh bien, ça dépend des sociétés et ça dépend du temps où quand la question s'était posée. comme il n'y avait aucune observation qui permettait de dire qu'il y a de la vie ailleurs, de même qu'il n'y avait aucune observation qui permettait de dire qu'il n'y en a pas d'ailleurs, c'était une question qui était entièrement d'ordre dogmatique. Il y avait des modes de représentation qui supposaient qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas d'autres terres dans l'espace. Si vous voyez dans l'Antiquité, du temps d'Épicure, 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est absolument incroyable, dans les lettres à Hérodote que je conseille à tout le monde de lire, Épicure prend comme hypothèse, bien sûr c'est une hypothèse, que l'univers est infini. Déjà ça c'est ahurissant parce que à l'œil nu, vous voyez, par les belles nuits, 1000, 1500 objets, pas plus. Et il dit, si l'univers est infini, et je le pense, il y a forcément une infinité de mondes comme le nôtre, et d'ailleurs disait-il aussi une infinité de mondes différents, ce qui est une très belle définition de l'infini. Et donc il a, on peut dire, initié, enfin je dis lui parce que c'est le texte le plus ancien, il y en a peut-être bien d'autres avant, la notion de pluralité des mondes. Donc dans l'Antiquité, on pensait à la pluralité des mondes. Puis sont venus d'abord des gens en Grèce d'abord, puis les monothéismes qui ont imposé une toute autre vision, puisque la Terre a été créée, unique, immobile, centrale dans l'univers. Donc il n'y en avait plus qu'une. Et il a fallu attendre le XVIe siècle pour que Copernic d'abord, et puis d'autres, en particulier Giordano Bruno, repropose quelque chose de différent. Copernic en disant non, mais la Terre est un objet banal, il tourne comme une planète autour du Soleil. Mais il y avait toujours cette notion que l'univers peut ne pas être infini, qu'il y a la sphère des sphinx, les étoiles, et que de l'autre côté, c'est le domaine de Dieu. Mmh. C'est Giordano Bruno le premier qui a brisé cela, alors qu'il était pourtant ecclésiastique. Il en était tellement hérétique, comme on sait bien, il a été arrêté par l'Inquisition, il a été brûlé vif pour avoir dit cela. Il a proposé que l'univers soit infini. Il n'avait aucun moyen d'expérimentation, de validation. Il a dit, moi je ne peux pas imaginer que ça s'arrête là. Et disait-il, comme Épicure, mais sans le citer d'ailleurs 2000 ans avant, si c'est comme ça, il y a une pluralité des mondes. Et on peut dire que c'est Giordano Bruno qui a réinitié ce concept-là. J'en veux beaucoup à Wikipédia, qui, si vous tapez pluralité des mondes, vous arrivez sur Fontenelle, qui longtemps après explique. C'est vraiment Giordano Bruno qui a proposé qu'il y ait une infinité de mondes, et donc de terre, et donc de vie.
Cette idée-là,
elle a été creusée et assise, y compris par la science, jusqu'à l'ère spatiale, on peut dire. Donc, quand l'ère spatiale, pour répondre à la question maintenant, quand l'ère spatiale est née, le dogme dominant, c'est la pluralité des mondes.
Et on avait la certitude que la vie était partout. Et pour preuve, cette archive que l'on a retrouvée pour vous, Jean-Pierre Bibring, qui date de 1974, qui est extrait de l'émission scientifique de l'ORTF, pourquoi pas ?
L'opinion générale est que la vie existe dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de planètes, dans notre galaxie, et même sans doute dans des galaxies plus lointaines. Après tout, les conditions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une planète pas trop chaude, avec de l'eau, avec des gaz tels que l'oxygène, l'azote, et puis une étoile pour apporter l'énergie libre nécessaire, la négantropie nécessaire, la lampe et le frigidaire, si vous voulez, se rencontrent certainement dans beaucoup d'endroits. Peut-être des centaines de mille planètes de ce genre existent dans notre galaxie. Alors, comme la vie a mis 1 milliard d'années pour apparaître sur la Terre, quelque chose comme cela, et que des planètes de ce genre existent depuis beaucoup de milliards d'années, il est très probable, on peut dire certain, qu'elle existe aussi dans beaucoup d'endroits dans notre galaxie. Pas dans le système solaire, pas sur les planètes que nous connaissons autour du Soleil, mais ailleurs, à une centaine d'années-lumière peut-être.
Jean-Pierre Bimbring, donc archive de 1974, aucun doute sur le fait que la vie est présente partout ailleurs.
Voilà, c'est un peu ce que je vous disais, le monde était vraiment dominé, en tout cas notre monde, on va dire, dogmatiquement, par cette idée de la pluralité des mondes. Et ça donnait en plus, et ça que je trouve étonnant, on va dire, dans cette archive, c'est qu'on lui donnait une connotation scientifique basée sur le fait qu'il y a des milliards d'objets tels que, et que des milliards c'est l'infini. Ça ne veut pas dire grand-chose tout cela. Il y a des milliards d'êtres humains, on sait bien qu'on est tous différents quelque part. Mmh. Alors on a de commun d'êtres humains, mais c'est la richesse de cette diversité qu'on est tous différents. Et ça pourquoi ? Parce que le nombre de combinaisons de 23 chromosomes entre eux est incommensurablement plus grand que des milliards de milliards. C'est plus que des milliards à la puissance de milliards. Donc cet argument-là, cet argument que beaucoup de gens utilisent encore aujourd'hui, qui tendrait à dire que l'univers est infini parce que c'est des milliards de planètes potentielles, Il faut faire attention, je vais le dire comme ça, il faut faire attention à cela. Et c'est vrai que de 1974, puisque date cette archive, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'on a commencé à explorer les autres mondes, et en explorant les autres mondes, indépendamment de la vie, d'abord simplement pourquoi la Terre est différente de Mars, de Vénus, etc., et pourquoi les autres planètes le sont toutes différentes.
On a vu la diversité.
Voilà, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui fait une planète, c'est pas simplement ce qui sa taille et sa distance à l'étoile, c'est qu'il y a tout un tas d'autres propriétés qui ont façonné l'évolution. Que la Terre a eu une évolution qu'on commence à comprendre maintenant, qui est passée par des étapes qui, à chaque fois, auraient pu prendre un autre chemin d'évolution.
On va y venir.
Et c'est ça qui est absolument passionnant. Mais c'est vrai qu'en 74, on n'avait pas encore cette idée-là. Alors, 74, c'est rigolo parce que c'est juste avant 76 qui est l'année où deux sondes américaines se sont posées sur Mars, qui s'appellent les sondes Viking, qui ont été conçues à la fin des années 60. Et les Américains voulaient que ça se pose, en fait, le 4 juillet 76 pour fêter le 200e anniversaire de la Constitution américaine. Et l'objectif, contrairement à ce qui est souvent dit, c'était pas de savoir s'il y a de la vie sur Mars, parce que tout le monde, à l'époque, pensait que la vie sur Mars, c'était acquis.
Ouais, ouais.
Les missions Viking avaient comme objectif de caractériser le métabolisme de la vie martienne.
Ouais,
est-ce que sur Mars, c'est comme des végétaux qui absorbent du gaz carbonique et qui recrachent de l'oxygène, ou est-ce que c'est comme des mammifères qui absorbent de l'oxygène et qui recrachent du gaz carbonique? C'était ça, les expériences Viking. 76. Et c'est vrai que les résultats de cette expérience Viking, c'était le premier grand ébranlement de cette certitude que l'on avait que la vie est une propriété générique de l'univers.
Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Et grâce à Jupiter, je vais rencontrer enfin le grand amour. Mais depuis avant-hier, la date est passée et j'attends toujours. Tout est faux, archi-faux, dans l'horoscope. Socialement parlant, je dois hériter d'un cousin milliardaire. Mais ce proche baron semble décidé à rester sur terre. Il aime pour ma santé, je dois me méfier, disent les oracles. J'ai beau me surveiller, mais je me porte bien, ce doit être un miracle. Tout est faux, archi faux, dans l'horoscope. Que l'on soit du taureau, du lion, du bélier ou bien du sagittaire. Soit né gémeaux, balance ou verso, poisson ou cancer. À quoi bon le cacher? Personne n'y croit, pourtant chacun le lit. Il suffit d'en parler pour s'apercevoir où mène la folie. Tout est faux, archi faux, dans l'horoscope. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit.
Un clin d'œil à Juliette Gréco, oui. Jean-Pierre Bibrine, que vous adorez, je crois.
Oui, absolument. Mais bon, c'est tellement banal de le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu des personnalités absolument incroyables qui ont bercé toutes nos propres évolutions, bien sûr. On a vécu avec eux tout au long de notre vie.
Et elle fait partie de votre évolution.
Ah, ça, c'est certain.
Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, c'est toujours la journée particulière de l'astrophysicien Jean-Pierre Bibrine. Le 12 novembre 2014, donc le robot Philae, dont vous étiez un des coordinateurs scientifiques, se posait après plusieurs rebond sur la comète Chury. L'objet de la mission, c'était bien de connaître la composition du noyau de la comète. C'était bien ça.
Voilà, l'idée qui était née quand on a conçu ça, c'était de se dire, on a la vie sur Terre, elle est sortie du non-vivant à un moment donné, on n'avait pas d'idée, on viendra peut-être là-dessus, mais
bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire que la vie a émergé à un moment donné? Et on s'est dit qu'il fallait pour ça des constituants de base, et peut-être que ces constituants de base sont dans les noyaux cométaires, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà là, dans le mélange du nuage qui a fabriqué le système solaire, on n'a plus accès à ça autrement qu'en cherchant des objets qui ont gardé la mémoire de ce qu'était ce matériau-là. Et les noyaux cométaires ont cela. Ce sont des objets qui sont formés loin du Soleil. Il faisait très froid. Ils ont cimenté tout le matériau d'origine et ils l'ont gardé comme dans un grand congélateur jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en analysant ce matériau, on a une idée du matériau d'origine. Donc, c'était ça qui était derrière nos idées lorsqu'on a proposé de fabriquer Rosetta et puis Philae. Mais on n'avait pas d'idée, en fait, de ce que ça, à quoi ça devait ressembler, parce qu'encore à l'époque, l'idée de base, c'était qu'une comète, pour tout le monde, une comète, c'est une grande coma. Si ça s'appelle comète, c'est qu'il y a une chevelure. Coma, c'est chevelure en latin, avec des queues cométaires. C'est un objet de grande dimension qui font des millions de kilomètres. On savait que ce million de kilomètres de gaz que l'on voit quand on voit une comète proche du Soleil, elle provient de la sublimation de glace qui sont chauffées par le Soleil. C'est pour ça qu'on ne voit les comètes que quand elles se rapprochent du Soleil. Mais quand elles sont loin, elles sont pas encore entourées de cette enveloppe et c'est un petit objet de toute petite dimension, quelques kilomètres seulement. Et on pensait bien que c'était la glace qui dominait puisque c'est la glace qui se sublimait. Et toutes les expériences qui avaient été envisagées, c'était des expériences qui voulaient aller voir un objet de glace essentiellement, dans lequel il pourrait y avoir un peu de matière carbonée qui pourrait être cette matière primordiale à partir duquel la vie aurait pu évoluer. Le premier grand résultat de Philae, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de glace dans ce noyau. Il y en a bien sûr, peut-être 10, 15, 20%. Mais que l'essentiel de ce matériau-là, celui que l'on voit sur nos images, et on était tout prêt pour les voir jusqu'à... Ce sont des petits grains. Des grains, mais pas si petits que ça, ils peuvent faire jusqu'à quelques millimètres. Et ces grains sont pour l'essentiel des grains dont la structure de base, c'est du carbone. C'est même pas du silicium, c'est même pas des grains comme des petits minéraux rocheux que vous avez sur Terre. Ce sont réellement des constructions carbonées qui se sont faites avant même donc que le système solaire ne se forme, qui ont été piégées dans ces choses-là. Et la grande question qui a été donc révélée par cela, c'est... comment est-ce que cette évolution de la chimie du carbone a pu conduire à ces édifices carbonés? Que sont ces édifices carbonés? Et est-ce que c'est bien à partir de ces édifices carbonés qu'une fois ensemencés dans des océans terrestres, les structures vivantes sont apparues?
C'est-à-dire, est-ce que ce sont les ingrédients de la vie? Est-ce que ces structures, voilà, ces petits grains sont les ingrédients de la vie? Donc Philae nous interroge sur ce que c'est que le vivant.
C'est, voilà, l'idée de base, mais qui est en train, si vous voulez, autant l'unicité de la Terre, maintenant, comme objet planétaire, est quelque chose de relativement acquis. Pour le vivant qu'elle porte, c'est une véritable question. Est-ce que cette chimie du carbone que l'on retrouve dans Philae, c'est quelque chose qu'on aurait retrouvé dans n'importe quel autre objet autour d'une autre étoile, et que donc n'importe quelle chimie du carbone va donner naissance à de la vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans ce nuage-là, qui a fabriqué une matière particulière, qui effectivement contient ce qui a permis ensuite d'évoluer vers ce qu'on appelle de la vie sur Terre?
La question, c'est, est-ce que le vivant, c'est quelque chose qui est intimement lié à la Terre? Ou est-ce que c'est une propriété génétique de l'univers? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui.
C'est en tout cas celle que je crois on devrait se poser, parce que effectivement, il y a encore cette conscience, de même qu'il y a eu la pluralité des mondes et qu'il a fallu lutter pour arriver à ce que les gens comprennent, que pour que la Terre devienne la Terre, il y a une succession de processus qui font que chaque objet planétaire, pas que la Terre, chaque objet planétaire est unique. Peut-être que pour le vivant, c'est la même chose, mais pour l'instant, il y a encore une très grande majorité des gens qui pensent que le vivant est une construction normale de l'évolution de la matière dans l'univers. Et je crois que Philae, et c'est ça qui pour moi était le plus important, c'est une piste qui permet justement de s'extraire de ce paradigme-là pour dire que peut-être bien que le vivant lui-même est une construction d'une chimie particulière intimement liée à la construction de la planète Terre elle-même.
Alors, qu'est-ce que le vivant? C'est une question qui a été posée toujours en 1974, toujours dans cette même émission scientifique de l'ORTF, pourquoi pas. On a posé cette question de la définition du vivant à plusieurs scientifiques de renom.
Qu'est-ce que?
Je dirais que la vie n'existe pas parce que la vie est une abstraction.
Moi, je ne définis pas la vie, mais enfin, si je la définissais, je dirais que la vie, c'est vous, ceux qui sont ici et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent.
Je voudrais que la vie, pour moi, c'est quelque chose qui commence à un certain moment et qui finit à un autre moment.
Écoutez, si on est rationaliste, on admet que la vie, c'est un ensemble de molécules qui est régi par des lois physico-chimiques. Maintenant, les spiritualistes, quelquefois, pensent qu'il y a quelque chose de surajouté à cet organisme, qu'il y a quelque chose de spirituel. Mais là, les avis sont très partagés. Certains croient et d'autres ne croient pas à l'existence de cet élément spirituel.
Les êtres vivants sont constitués de matière vivante. Et la matière vivante est celle qui a le talent de s'auto-reproduire, de se reproduire par elle-même aux dépens du monde ambiant et par là de s'accroître.
Comment vous réagissez à ces définitions du vivant datées de 1974, Jean-Pierre Bibring?
Je pense réellement que si on posait la même question aujourd'hui à un même panel, on aurait une diversité à peu près similaire en fait. Je pense que sur les questions du vivant, les choses n'ont pas évolué aussi vite que sur la question de l'unicité ou pas des objets planétaires par exemple. Essentiellement parce qu'on n'est pas capable réellement de donner une définition du vivant. Moi, ça m'est arrivé souvent avec des biologistes, je ne suis pas biologiste, de leur poser la question, vous, comment définiriez-vous le vivant? Et si vous avez 3 biologistes autour de vous, vous aurez 4 réponses. C'est extraordinairement difficile et je pense que ça pose une véritable nouvelle question assez fondamentale sur laquelle on peut revenir, qui est précisément de savoir si le concept même de vie et de vivant est encore opérationnel. Le vivant, on le définit par rapport au non-vivant, par définition, à l'inerte. En disant, il y a une différence entre une pierre et un arbre. Et puis après, vous essayez de comprendre la différence entre une pierre et un arbre, vous apercevez que c'est pas si simple. Ici, dans les archives que vous nous avez fait entendre, par exemple, on parle de cette histoire d'autoréplication, d'autonomie dans le développement. Est-ce que c'est vraiment une propriété sûre du vivant? Il y a des choses qui différencient un arbre d'une pierre. Par exemple, l'arbre évolue rapidement à l'automne. Il est différent qu'au printemps. La pierre, on a l'impression que c'est immuable, qu'elle ne bouge pas. Il y a une évolution. Simplement, elle est sur des constantes de temps autrement plus longues qui fait que, pour nous, c'est l'infini et donc on ne le voit pas évoluer. La notion même d'évolution pose problème. Mais pour moi, la plus grande des difficultés qui met en cause ce problème, cette réflexion sur le vivant, c'est que si vous pensez que le vivant se distingue d'une manière forte de l'inerte, vous ne pouvez pas ne pas aboutir à l'idée que le vivant est né d'une émergence de non-vivant, c'est-à-dire de l'inerte. Qu'il y a eu un moment dans l'histoire où vous avez eu le passage soudain du non-vivant au vivant. Alors bien sûr, il y a eu plein de réponses. Le créationnisme répond. Quelqu'un l'a créé. Bon ben voilà, vous le créez. Avant qu'il soit créé, il n'était pas là. Et on parle d'ailleurs souvent, encore même dans les universités, de l'origine de la vie. Comme s'il avait une origine, qu'on pourrait dater même. La vivante date de temps. Il y a des gens qui vous disent que le vivant est apparu il y a 3,7 milliards d'années. Il y a 2 choses que je veux simplement dire ici. La première, c'est que par exemple, pour l'homme, c'était la même chose à un moment donné. On parlait de l'origine de l'homme, entre autres parce qu'il a été créé dans la Genèse au 6e jour et qu'il fallait bien qu'il y ait un jour avec et un jour sans. Enfin, un jour sans, puis un jour avec. Grâce à Darwin et sa magistrale démonstration de l'évolution des espèces, plus que de l'origine des espèces, on comprend bien qu'on ne parle pas de l'origine de l'homme. Il n'y a pas eu un jour où il y avait l'homme et que la veille il n'y avait pas l'homme. C'est une évolution continue, progressive, chez les hominidés qui fait que, et on sait que cette évolution, elle était très conditionnée par l'environnement dans lequel ça s'est fait, avec cette adaptation et donc cette sélection progressive. Il n'est pas exclu, en tout cas c'est ce que je pense, que ce qu'on appelle le vivant globalement, non plus l'homme mais le vivant lui-même, les premières bactéries, les virus peut-être, ça procède un peu de la même chose, c'est-à-dire que c'est une évolution continue, il y a toujours des étapes dans une évolution continue, il y a des réactions, mais que c'est une évolution continue et la richesse justement de Rosetta et de Philae, c'est de nous donner accès à l'une de ces étapes, qui est le matériau à partir duquel l'étape suivante est aussi une étape, c'est-à-dire l'ensemencement de ce matériau-là dans des océans, mais les océans dans lesquels les étapes suivantes se sont faites, c'était pas des océans d'eau pure. Si vous mettez un poisson dans un aquarium d'eau pure, il vit pas très longtemps. Il fallait que cette eau ait des propriétés particulières, une température, une acidité, des cations, etc., qui permettent certains types de réactions. Et donc, c'est ça qui constitue la chaîne de l'évolution, sans qu'on puisse dire qu'il y a eu un moment avec et un moment sans.
Ben justement, Jean-Pierre Bibring, en préparant cette émission, c'est ce que j'ai compris. C'est que si la vie était apparue sur Terre, c'était une suite d'événements improbables et de hasards qui ont fait que sur des milliards d'années, la vie a pu apparaître sur Terre. Le hasard, c'est fondamental dans cette histoire-là.
Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du hasard? Qu'est-ce que c'est le hasard?
Eh bien, vous me gênez beaucoup. Je crois d'ailleurs que si vous posiez à un biologiste la question de savoir qu'est-ce que la vie, ou à un physicien la question de savoir qu'est-ce que la matière, il serait aussi gêné que moi. Définir le hasard, c'est vraiment très très difficile. Enfin, d'abord, nous venons de voir que le mot qui sert, qui recouvre cette notion-là, est arrivé assez récemment dans la langue française, par l'intermédiaire de pays étrangers. Qu'est-ce que le hasard? Eh bien, je dirais que le hasard, c'est tout ce qui échappe aux lois, tout ce qui est en dehors de la raison, tout ce qui ne peut pas se calculer, se déterminer suivant des règles fixées d'avance. Et pourtant, le hasard peut arriver à recréer des lois. Il existe, aussi paradoxal que ça puisse sembler, des lois du hasard.
Ça vous fait sourire, Jean-Pierre Vibring ?
Non, je trouve que c'est très intéressant. La définition du hasard qui est donnée ici, à savoir quelque chose qui échappe aux lois, de fait montre que l'évolution, aussi bien des mondes planétaires que de la vie, n'est pas d'ordre du hasard précisément, parce que je ne pense pas que ça échappe aux lois. Moi, je préfère dire que c'est une affaire de contingence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'environnement va décider dans un choix de possible qui est très très grand, celui qui sera le plus adaptable possible, celui qui répondra mieux à la facilité de l'évolution, quelque part. Mais ces lois d'évolution restent des lois d'évolution normales de la réactivité physique, chimique, de ce qu'on met en... Simplement, l'environnement, le contexte, lui, va favoriser telle ligne de réaction plutôt qu'une autre. Donc, on peut appeler ça du hasard. Pourquoi il y avait telle condition évolutive? Mais quand on revient, par exemple, ce qu'on disait à propos de la mutation qui a donné naissance à ce que sont devenus les hommes, à un moment donné, ce sont probablement des modifications géologiques qui ont fait changer le paysage, changer ça, où les bipèdes étaient plus favorisés que les quadrupèdes, etc. Mais les transformations de la Terre elle-même, elles sont explicables à un moment donné. C'est pas d'ordre du hasard, mais c'est compte tenu de cette évolution-là que la vie s'y est adaptée.
Mais pourtant, j'avais cru comprendre que dans cette longue histoire de l'évolution et de l'apparition de la vie, il y avait plein d'aspects comme ça où ça avait été des coups de chance, que la Terre soit à la bonne distance du Soleil, que les comètes aient percuté la Terre et qu'elle soit pleine d'eau, qu'il y ait eu des volcans. Tout ça, toutes ces choses-là qui se sont accumulées et que, sur lesquelles vous avez travaillé pour voir comment la vie avait pu apparaître sur Terre. Même la façon dont la Lune, la façon dont la collision a eu lieu sur la Terre, l'angle, le moment où ça s'est passé, et dans ces débris, il y a une Lune. Tout ça, c'est pas du hasard?
Alors, vous pouvez appeler ça du hasard à nouveau, mais par exemple, dans ce que vous avez dit, il y a quelques mots, le mot de chance, par exemple.
Ouais.
En anglais, le mot de chance, c'est du hasard, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif. En France, quand on est chanceux, c'est au positif. Il y a toujours quelque part, dans la manière de dire les choses, cette idée qu'il y a une chaîne de l'évolution et une flèche de l'évolution qui tend vers quelque chose. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder, on dit est-ce que les conditions étaient propices à ce que la vie apparaisse. Mais il n'y avait rien qui demande à ce qu'on arrive vers la vie. Il y a eu des chaînes d'évolution qui ont conduit à une grande diversité de possibles. Chez nous, ça a donné cette forme-là. Ailleurs, ça a donné d'autres choses. Si effectivement l'impact qui a donné naissance à la Lune avait été différent, il n'y aurait pas eu la Lune, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu la Terre, qu'il n'y aurait pas eu une autre chaîne d'évolution de la matière carbonée, dont on n'a aucune raison de penser qu'il aurait fallu l'appeler d'ailleurs du vivant, mais ça aurait donné autre chose.
D'accord.
À tout moment, l'évolution existe, il y a des réactivités qui se fassent en fonction des ingrédients qui sont présents, mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans en disant attention, il faut aller là-haut parce que le point important, c'est le cerveau humain. Non, il y a des chaînes d'évolution qui vont suivre des traces différentes. On est sur l'un d'entre eux, de ces passages-là, mais il n'y avait rien qui le... Il n'y avait pas de grand dessin derrière. Et on a beaucoup de mal à s'échapper de cette vision-là.
L'évolution explore l'espace des possibles en biologie.
On est dans un mouvement permanent. Et ça, c'est quelque chose qui fait, à la fin, quelque chose d'absolument unique. Donc, dans tous les cas, si on découvre une forme de vie, eh bien, elle sera surprenante et fondamentalement différente de la vie terrestre.
Je ne m'attends pas à trouver un arbre dans une autre planète et un écosystème à l'identique à celui-là. Mais si jamais la vie est apparue sur une autre planète basée sur une chimie équivalente, je ne suis pas sûre qu'on ait des animaux et des plantes.
Ne pensons pas qu'on puisse retrouver notre environnement sur une autre planète. C'est totalement illusoire. Est-ce qu'il y a une planète B? Ma réponse est très méchante, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de planète B. Et c'est criminel de le faire croire. Il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour l'écosystème terrestre, c'est la Terre. Et il n'y en aura pas d'autre.
C'est un extrait là qu'on vient d'entendre du documentaire grand format diffusé sur la 5 qui s'appelait « Et si la Terre était unique ?» et un documentaire auquel vous avez participé, Jean-Pierre Vibring.
Absolument, et je suis très content que vous ayez extrait ces deux passages de Purification, qui est un biologiste d'Orsay, et de Michel Vizeau, qui est notre représentant d'exobiologie au CNES, des amis qui sont extrêmement forts et très puissants dans leurs démonstrations, on ne peut qu'être d'accord avec ce qu'ils disent. Peut-être à un mot près, d'ailleurs, qu'il faudrait que je rappelle à notre ami Michel Vizeau. Ils disent qu'il y a des formes de vie, d'autres formes de vie ailleurs, elles ne ressembleront pas à la nôtre. Je ne dirais pas qu'il y a d'autres formes de vie. Il y aura d'autres évolutions, mais il n'y a aucune raison d'appeler ça du vivant. Pour moi, il n'y a qu'une forme de vie. Il n'y a pas de principe de vie qui pourrait prendre d'autres formes ailleurs. Il y a des évolutions qui prendront des formes ailleurs. C'est comme si on disait qu'il y aura, il y a pas d'autres terres. Ça a été dit et c'est très important. Il y a pas d'exotères. La vie en particulier, telle qu'on la connaît sur Terre, ne peut s'adapter qu'à ce que la Terre est devenue. Elle est intimement couplée à ce que la Terre est devenue. Et donc, on ne peut pas reconstruire ça ailleurs. L'idée qu'on va faire de la terraformation, etc., ce qui est sous-entendu par ce que dit Michel dans ce documentaire, est tout à fait vrai. C'est effectivement criminel de penser que la vie devrait ou pourrait s'exporter ailleurs. La vie est intimement liée à ce que la Terre est devenue.
No 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension. Only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rains, the first for her. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Well, maybe I should study my reflection. Best to know how I see, I see, I see. I spend the day dreaming of connection.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Le 12 novembre 2014, Jean-Pierre Bibring, c'est votre journée particulière. En 2014, je ne sais pas si vous en souvenez, l'année 2014 a été la plus chaude sur Terre depuis que le début des relevés climatiques en 1880. Mmh. Et cette même année 2014, 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne s'engageaient, encore une fois, à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mmh. Un commentaire ?
Bah, vous l'imaginez, et ça s'est encore aggravé depuis. Donc, ouais. Non, ces affaires du défi climatique sont quelque chose de ahurissant, parce qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est, et on ne prend pas surtout la mesure de ce qu'il faut faire. Donc, oui, en 2014, il s'est passé beaucoup de choses, et c'est vrai que les affaires climatiques ne font que s'aggraver. Alors, c'est un vrai débat qui est absolument passionnant. On pourrait y passer, beaucoup de gens y passent de nombreuses émissions. Ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est que l'alerte climatique est venue des scientifiques. C'est la première fois qu'il y avait quelque chose qui venait des climatiques. C'est essentiellement à Rio en 92, c'est pas de la préhistoire, hein, il n'y a pas très longtemps que ça. Mais c'est les scientifiques qui, pour la première fois, ont dit aux politiques « attention, on va dans le mur ». Si vous prenez des défis semblables, par exemple, sur le problème de l'arme nucléaire, c'est Truman qui a été chercher des scientifiques pour construire une bombe atomique. C'était dans l'autre sens. Là, c'est la première fois que, parce que l'alerte vient des scientifiques, on se heurte à un mur qui est qu'on essaye de faire prendre position et surtout des mesures à des gens qui, en fait, ne sont pas là pour prendre ce type de mesures. Alors, c'est un véritable combat et il y a une course contre la montre qui est lancée. Il y a eu plusieurs moments dans cette affaire-là. Pendant plusieurs années, il a fallu effectivement convaincre que l'homme était responsable de ces activités-là. cet élan. On a parlé bien sûr des climato-sceptiques et tout un tas de gens qui ont dit non, c'est un phénomène naturel. Non, effectivement, il y a un phénomène naturel de réchauffement, mais ça n'a rien à voir. Il est sur des constantes de temps beaucoup plus longues et l'homme précipite ça. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes augmentations que la nature fait, mais au lieu de le faire à l'échelle des millénaires, on le fait à l'échelle de décennies et le système ne peut pas mettre en place des systèmes de régulation. Donc il y a un véritable risque, pas pour l'ensemble du vivant, pas pour l'ensemble de la planète, mais pour l'homme lui-même d'ailleurs. Et c'est ça qui a d'ailleurs fait naître la notion d'anthropocène, qui est la fameuse sixième ère, etc. À vrai dire, moi, je me range pas derrière cela. Pourquoi ? Parce que la notion d'anthropocène dirait que c'est l'homme en tant qu'espèce qui est responsable. C'est pas l'espèce humaine, parce que si c'était l'espèce humaine, il n'y a pas de solution. Il faudrait supprimer l'espèce humaine. Bon. De cette phase de lucidité sur la responsabilité de l'homme, on passe à quelque chose d'autre aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme en tant qu'espèce, c'est l'homme dans un mode de production particulier. Et ce mode de production qu'on commence à comprendre maintenant, on comprend le mode de production depuis longtemps, mais dont on comprend maintenant que de plus en plus, et surtout les jeunes, c'est ça qui est extraordinaire, comprennent que c'est pas l'homme, mais c'est la manière que l'homme a de maîtriser la nature à partir de ce qu'on appelle des lois, comme les lois du profit, le fait que pour avoir de l'énergie, il faut la vendre, etc. On s'aperçoit que il faut modifier le système de production et que si on le modifie, il y a une possibilité de s'en sortir. Et donc maintenant, la question est de savoir effectivement comment faire pour modifier la manière dont l'homme réagit ici. Donc c'est des véritables constructions sociales qu'il faut mettre en place et qui passent par des changements colossaux. Par exemple, le rapport entre les pays actuellement, on dit par exemple qu'il faut une armée européenne parce qu'il y a un ennemi à gauche, un ennemi à droite. C'est pas par la force qu'on va gagner contre la Chine. C'est quoi cette idée-là? Il faut absolument modifier les rapports pour qu'on comprenne que la planète est une et qu'on est tous sur le même bateau. Le maître mot de tout ça, c'est de la coopération. C'est pas de la défense. Il faut pas s'armer. Il faut s'éduquer et coopérer. Et ce changement-là, on le voit s'opérer actuellement. Et c'est ça qui fait que je suis en fait très optimiste sur la capacité que l'on a. Mais c'est une véritable course que l'on a parce que ça se passe maintenant à l'échelle de quelques dizaines d'années.
Merci Jean-Pierre Bibring.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant. On vous retrouve aussi dans le podcast Bleu comme Mars de Camille Jusot qui paraît demain sur toutes les plateformes d'écoute. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, Alina Anne Delavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la technique Charles Leca. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site de France Inter. Passez un bon week-end.